Il y a 3 ans, la veille de Noël, je suis passé incognito à l'église baptiste de Clermont-Ferrand. J'étais en famille, nous étions en vacances dans la Creuse, et Samuel n'était pas là ce jour-là, Simon n'était pas là ce jour-là, alors on est resté très discret. Mais c'est une joie pour moi de revenir 3 ans plus tard et de vraiment découvrir l'église baptiste de Clermont-Ferrand et de faire connaissance personnellement avec pas mal d'entre vous. Je n'ai pas encore réussi à faire tout le tour du groupe pour vous saluer et pour connaître votre histoire, mais j'ai fait une bonne partie du chemin. Nous avons vu hier que il y a 4000 ans, Dieu avait un projet. Il voulait donner à Abraham et sa femme, Sarah, stérile, une famille. Il voulait bénir cette famille et faire de cette famille une bénédiction pour toute la terre. Et nous avons vu que quelques siècles plus tard, Dieu a fait un bilan intermédiaire. Et il a trouvé que la famille d'Abraham n'était pas vraiment bien entrée dans le projet de Dieu. Le peuple de Dieu a accueilli la bénédiction de Dieu pour lui. Jusque-là, pas de problème. Mais il n'a pas très bien su partager cette bénédiction avec d'autres. Alors, Dieu a utilisé des moyens forts. Il a déplacé son peuple à Babylone. Et alors que le peuple en exil n'avait qu'une seule idée, de retourner au plus vite à Jérusalem, Dieu lui demande de prier pour la ville de Babylone et de devenir une bénédiction pour la ville de Babylone. Et en fait, cela se réalise dans la vie et dans le ministère de Daniel, qui devient un des plus hauts fonctionnaires et responsables du régime babylonien. Et Dieu était en train de faire une chose étonnante à ce moment-là. Il était en train de disperser le peuple juif partout dans le monde pour préparer l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu a placé son peuple partout dans le monde connu de l'époque pour préparer l'annonce de l'évangile. Et nous avons encore vu hier que Dieu veut bénir l'église baptiste de Clermont-Ferrand, vous les chrétiens de l'église baptiste. Mais il ne veut pas que ça s'arrête là. Il veut que vous deveniez une bénédiction pour les autres. Alors, ce matin, nous allons poser la question d'une façon un petit peu différente. Nous avons vu que Dieu a des projets pour vous. Mais alors, si Dieu a des projets, cela signifie que vous avez une mission à accomplir. Quelle est cette mission? Avez-vous l'impression d'être des gens investis d'une mission? Nous allons voir ensemble des paroles de Jésus à la fin de l'évangile selon Matthieu. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Matthieu 28, les versets 18 à 20, si vous avez votre Bible pour suivre. Jésus s'approche de ses disciples, il est sur le point de partir. C'est le jour de l'ascension. Jésus s'approche de ses disciples et leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'aimerais partir de ces paroles de Jésus pour essayer de définir quelle est notre mission en tant que chrétien de l'Église baptiste de Clermont ou d'ailleurs. Et cela va se résumer sous quatre chapitres. Tout d'abord, la mission de Jésus consiste à aller dans le monde. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour Samuel et pour le conseil de l'Église. Peut-être qu'ils ne m'inviteront plus. En fait, l'essentiel de la mission de cette Église, l'essentiel de votre mission, ne se passe pas dans les murs de l'Église, ne se passe pas dans le cadre des activités de l'Église baptiste de Clermont-Ferrand. Parce que l'Église baptiste de Clermont-Ferrand n'existe pas pour elle-même. Elle existe pour le Seigneur et pour sa mission. En fait, l'essentiel de votre mission n'est pas ici, dans les activités de l'Église, mais à la maison, à l'école, si vous avez encore, à la fac, à l'atelier, au bureau. C'est là où Jésus vous envoie. Ce qui se passe ici, pendant ce week-end, n'est pas le plus important. Ce week-end existe pour vous préparer pour votre mission là où Dieu vous envoie. Votre mission tout au long de la semaine. Jésus envoie ses disciples dans le monde. Allez, leur dit-il. Et ce qui est merveilleux, ce qui est formidable, c'est que Jésus ne nous balance pas comme ça, il ne nous lance pas en pâture au loup, mais il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus vous accompagne dans cette mission. Jésus est présent dans votre atelier, dans cette ambiance de bureau qui n'est pas toujours facile à vivre. Jésus est présent. Et il vous investit d'une mission. Il est là pour nous soutenir. Car il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Jésus envoie chacun de ses amis dans le monde. Aller dans le monde. Et puis, ce n'est pas dit en tant de mots, mais c'est fortement impliqué ici. Jésus nous envoie dans le monde pour vivre en disciples. Est-ce que vous avez déjà essayé le coup un jour en disant à quelqu'un, ne faites pas ce que je vous dis? C'est raté, hein? Ne faites pas ce que je fais. Ah, c'était juste pour voir si vous dormiez pas. Voilà. Alors, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis. Est-ce que cela marche? Pour ainsi dire, jamais. Jésus dit à ses disciples de faire des disciples parce qu'ils viennent de passer 3 ans à apprendre à ses disciples à vivre en disciples. Mais cela n'a pas été facile. Les disciples de Jésus, comme les membres de l'église baptiste de Clermont-Ferrand, sont une pâte humaine, un sacré mélange de qualités et de défauts. Dans le lot, il y a un type très brave, un sanguin, un homme fougueux, plein de bons sentiments. Mais on ne sait jamais exactement comment il va réagir. Il est capable à la fois du meilleur. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre, dit-il. Et tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais un peu plus tard, il est capable de se mettre en travers du chemin de Jésus pour essayer de l'empêcher d'aller vers la mort. Il est capable de le trahir aussi. Mais c'est avec cette pâte humaine que Jésus fait un disciple. Il y a dans le lot 2 frères de bonne famille, tous 2 bourrés de qualité. Mais ils ont un grand défaut. Ils sont ambitieux. Ils veulent la première place auprès de Jésus. Ils ne supportent pas la contradiction. Quand ils sont mal reçus dans un village samaritain, ils disent à Jésus, « Fais descendre le feu sur eux !» Et de temps en temps, Jésus doit carrément les remettre à leur place. Et c'est frappant en lisant les évangiles de voir comment les disciples ont tant de mal à comprendre où Jésus veut en venir. Il est temps de relire les évangiles aujourd'hui. On ne devrait peut-être presque pas enseigner les évangiles aux enfants. Non, je raconte des bêtises. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons du mal à perdre notre regard enfantin sur les évangiles. Les évangiles ont été écrits pour des adultes. Ce sont des histoires d'adultes. Ce sont des histoires vraies de gens qui nous ressemblent, qui vivent les mêmes combats, les mêmes difficultés que nous. Et les disciples ont eu un mal fou à comprendre où Jésus voulait en venir. Après 3 ans avec Jésus, après 3 ans de vie partagée, après 3 ans de formation, ils n'ont toujours pas compris grand-chose. Et lorsque les soldats viennent arrêter Jésus, ils l'abandonnent tous. Et ce n'est qu'après l'avoir vu ressuscité, vivant, qu'ils sont enfin prêts à lui faire confiance et à le suivre. Je viens de fêter un anniversaire, la moitié d'un centenaire. Cela fait 50 ans que je suis Jésus, que je suis disciple de Jésus. J'étais encore tout gamin quand j'ai entendu son appel et que je me suis engagé à marcher avec lui. Mais le résultat n'est pas encore vraiment tout à fait ça. Il n'est pas facile d'apprendre à obéir à un maître, à suivre un maître, à servir un maître. Ce ne sont pas des réflexes habituels à notre époque. Un bon français franchouillard a du mal à se mettre dans ce rôle de disciple de Jésus. Mais combien ce maître est-il admirable et aimable? Et que de bonheur sur le chemin qui est de celui qui accepte de suivre Jésus jusqu'au bout. Et vous, quelle est la nature de votre engagement de chrétien? Est-ce un engagement inconditionnel ou soumis à des conditions? Tant qu'il fait beau, Seigneur, je vais même te suivre. Est-ce un engagement total ou partiel? Vivez-vous en sympathisant de Jésus ou vraiment en disciple? Où en êtes-vous dans votre apprentissage? Après 10 ans, vous recommencez la première année? Qu'est-ce que cela veut dire de vivre en disciple? Il s'agit tout d'abord d'être à l'écoute du Maître, de connaître sa parole, d'obéir à ses commandements. Le disciple de Jésus consacre du temps à écouter son Maître. Est-ce que la parole de Dieu un temps privilégié dans notre journée? J'aime bien naviguer quand je prends la route. Je m'équipe en carte et pour le moment, je n'ai toujours pas de GPS. Mais cet été, j'ai pu bénéficier des services d'un GPS Garmin. C'est une marque qui vient de Chine, je pense. Il semble que l'équipe Garmin du Tour de France a perdu son chemin un jour. Alors, ce n'était pas une très bonne publicité là pour la marque. Mais j'ai pu bénéficier, en tout cas, de ce GPS d'un ami. Et souvent, ses conseils étaient utiles et fiables. Mais de temps en temps, j'ai cru bon de passer outre. À chaque fois, qu'est-ce que j'entends? Calcul en cours. Calcul en cours. Grâce à un GPS, il est toujours possible de reprendre le bon chemin. Et la parole de Jésus et son esprit sans notre GPS, mais cette fois-ci 100% fiable. Et nous faisons bien d'y prêter attention. Moi, je bénis le Seigneur pour des hommes et des femmes qui, dès le début pour moi, m'ont aidé à connaître la volonté du Maître, qui m'ont aidé à lire la Bible pour moi-même, à découvrir la parole de Dieu pour moi-même, à l'étudier moi-même. Est-ce que dans cette Église, au-delà même de l'enseignement des jeunes, est-ce que vous leur donnez les moyens et l'habitude de découvrir la parole de Dieu pour eux-mêmes? C'est comme ça qu'on peut être disciple. Être disciple, c'est écouter le Maître. C'est aussi devenir comme le Maître, suivre son exemple. Qui sont nos héros? Quels sont les modèles que nous suivons? Qui donne le ton à notre vie? À qui voudrions-nous ressembler? Sommes-nous en train de nous bonifier comme un bon vin? Ou ressemblons-nous de plus en plus à du vinaigre? Lorsqu'on arrive à mon âge, on a intérêt à se surveiller. Parce que le danger, c'est qu'on ne s'améliore plus. Et plutôt que les choses se dégradent. Le maître saura me conduire. Et m'aider à devenir toujours meilleur. Mais je suis sensible aux besoins de la génération qui monte. Parce qu'ils vivent dans une situation encore plus difficile que la mienne. Je pense à la génération qui vit avec Internet. Et ce n'est même plus MSN. C'est quoi maintenant? Après MSN, c'est... Il y a Skype, mais le chat, c'est quoi maintenant? Il n'y a pas quelque chose qui a remplacé MSN?
Facebook.
Il y a Facebook, oui. Twitter. Enfin, voilà. Il y a, pour les jeunes d'aujourd'hui, il y a un tas de défis que je ne connaissais pas à mon époque. Il y a tant de choses qui peuvent les détourner de l'essentiel. Tant de choses qui peuvent les accaparer. Il n'est pas facile non plus pour le jeune qui veut suivre aujourd'hui, qui veut suivre Jésus aujourd'hui, de vivre dans ce contexte de liberté sexuelle. Et les jeunes ont besoin de notre aide, de notre encouragement pour devenir comme le maître et le suivre. Et enfin, il s'agit d'être disponible pour le maître. Parce que le maître investit le meilleur de lui-même dans ses disciples. Et à son tour, le disciple est prêt à tout donner, tout faire pour le maître. Il suffit d'un mot ou d'un petit geste du maître et le disciple passe à l'action. Y a-t-il dans l'église de Clermont un espace pour l'engagement? Mes étudiants, un jour, m'ont raconté une histoire qui m'a presque fait dresser les cheveux sur la tête, enfin ceux qui restent. Ils m'ont parlé d'une église où le ministère, le mot ministère, ça veut dire service, où le ministère n'était pas un service auquel tout le monde était appelé à participer, mais où le ministère était un pouvoir qu'on exerçait dans l'église. Et où ceux qui exerçaient des ministères dans l'Église les gardaient jalousement comme le moyen d'exercer un pouvoir. Y a-t-il dans l'Église de Clermont un espace pour l'engagement des nouveaux chrétiens, des jeunes? Moi, j'ai été gâté. J'ai animé mon premier culte à l'âge de 16 ans. J'ai animé mes premières études bibliques à l'âge de 14 ou 15 ans. On a cru en moi. On m'a mis au travail. Il ne faut pas attendre que les jeunes aient 25 ou 30 ans avant de leur confier des responsabilités. Dès l'âge de 14 ans, à 14 ans, j'ai commencé à faire de l'évangélisation. Si les jeunes veulent suivre Jésus, il faut tout de suite leur donner des responsabilités. Aller dans le monde, vivre en disciple. Ensuite, Jésus dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. Il s'agit tout d'abord de transmettre l'appel du maître. Je suis frappé de voir comment Jésus s'y prend avec ses premiers disciples. Jésus commence à annoncer dans la rue et sur les places publiques et dans les synagogues que le royaume de Dieu est proche, qu'il est temps de changer de vie. Et il voit des individus qui sont sensibles à son message, des gens qui sont touchés par ce qu'il dit. Et il les invite à partager sa vie. Il les entraîne avec lui sur la route. Et il leur donne tout ce qu'il a. Aujourd'hui, c'est vrai, la vie n'est plus la même. Mais je crois qu'il est utile et important de proposer à ceux qui nous entourent une démarche claire. J'aime beaucoup le parcours Alpha, parce que c'est toute une démarche qui permet aux gens de notre époque de rencontrer Jésus et d'apprendre à suivre Jésus. Mais Alpha n'est qu'un début. Ensuite, il s'agit de faire connaître toute la volonté de Jésus par notre enseignement et par notre exemple. Regardez Jésus au travail. On y a déjà fait allusion tout à l'heure. Un jour, Jean et Jacques se posent la question de qui est le plus important dans le royaume de Dieu. Et ils cherchent à avoir les deux belles places, à droite et à gauche de Jésus. Surprise. Jusque dans l'Église, il va y avoir des luttes pour le prestige et le pouvoir. Mais Jésus sait les remettre en question par une illustration toute simple. Il prend un enfant. Il avait le bonheur que tous les enfants n'étaient pas partis à l'école du dimanche ce jour-là. Alors, il prend un enfant et il le met au milieu d'eux. Et il les invite à observer l'enfant et à prendre exemple sur la manière d'être d'un enfant. Un autre jour, les disciples sont fatigués et excédés par toutes les demandes qui leur sont adressées. Et ils accueillent mal des gens qui sont venus demander à Jésus de bénir leurs enfants. Vous voyez, les disciples voulaient bien partager la bénédiction qu'ils avaient reçue, mais pas trop quand même. Et ça, c'est constamment un problème pour le peuple de Dieu. Non pas seulement recevoir la bénédiction, mais accepter de la partager et de la partager encore. Et Jésus leur explique combien les enfants sont importants dans le royaume de Dieu. Et il donne l'exemple aux disciples en prenant les enfants et en les bénissant. Et puis bien sûr, parmi les plus beaux gestes de Jésus, il y a l'initiative de prendre le linge et la cuvette et de laver les pieds à ses disciples. C'est comme ça que Jésus a fait des disciples. Et voilà le défi qui nous est lancé, de faire comme Jésus. Faire des disciples, c'est transmettre l'appel du Maître, c'est faire connaître la volonté du Maître, et c'est aussi mobiliser au service du Maître. Je vais encore dire des bêtises. J'ai l'impression que les chrétiens passent trop de temps, proportionnellement, sur les bancs des églises. En fait, la meilleure façon de faire des disciples est de privilégier l'apprentissage actif au cours théorique. C'est bon de sortir des murs de l'Église ensemble et d'apprendre d'une manière active comment suivre Jésus. Après avoir suivi Jésus un certain temps et l'avoir vu travailler, c'est aux disciples de passer à l'action. Et Jésus les envoie deux par deux sur les routes pour annoncer que le royaume est proche et pour guérir comme Jésus avait déjà fait. Et de cette expérience qui n'est pas sans risque et sans danger, les disciples reviennent ravis. C'était formidable comme expérience. Nous sommes investis d'une mission. Jésus nous envoie dans le monde. Il nous appelle à vivre en disciples et à faire des disciples. Et il nous appelle enfin à bâtir la communauté. Faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Avez-vous l'habitude dans cette église d'assister Samuel dans les baptêmes de personnes que vous avez aidées à cheminer vers la foi? Est-ce que ça se fait? Bien. En assistant Samuel dans ce geste de plonger le candidat dans l'eau et en vous joignant à la prière pour le candidat à la sortie de l'eau. Moi, j'ai un beau souvenir d'avoir participé à un baptême il y a 2 ans. J'ai vu débarquer au temple un jour un homme qui visiblement était malade, schizophrène. Et j'ai hésité un petit peu, mais je l'ai orienté vers le groupe Alpha. Et cet homme a mordu, il a accroché, il a mis sa confiance en Jésus, il a commencé à suivre Jésus. Et ensuite, il s'est joint à mon groupe de maison et il a demandé au pasteur le baptême. J'ai eu la joie d'instruire cet homme dans la foi. Et à l'aider à mettre son témoignage en forme, parce que, à cause de sa maladie, il avait une façon très confuse de raconter les choses. Et j'ai eu la joie de partager son bonheur le jour de son baptême. Cet homme avait connu une vie tragique. Mais le jour de son baptême, devant peut-être 250 ou 300 personnes, il a raconté ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et il y avait une clameur de joie qui est montée de l'église. Et cet homme était rayonnant de joie. Six mois plus tard, il est mort d'un cancer, mais mort paisiblement. Quelle joie d'accompagner cet homme dans la foi vers Dieu. Il n'y a rien de plus beau que de faire des disciples et de les introduire dans l'Église. Mais le baptême n'est qu'un premier pas. Il s'agit maintenant d'aller plus loin ensemble. Et bâtir la communauté, c'est grandir ensemble. Je n'ai jamais eu l'occasion d'assister à une réunion des alcooliques anonymes. Mais je crois savoir un petit peu de ce qui s'y passe. Au début de chaque réunion, si j'ai bien compris, chacun se présente en disant son nom, en reconnaissant son problème avec l'alcool et en disant depuis combien de temps il s'abstient de prendre de l'alcool. Je m'appelle André, je suis alcoolique et je m'abstiens depuis 3 semaines, par exemple. Et dans la réunion, chacun est encouragé à poursuivre ses efforts et à faire de mieux en mieux. Et de cette manière, de nombreuses vies sont transformées. Moi, je crois que l'Église pourrait apprendre des choses du mouvement AA. Parce que les pécheurs que nous sommes sont comme des alcooliques. Ils se cachent leurs yeux devant leurs problèmes. Ils reviennent sans cesse à leur mauvaise voie. Et ils se trouvent toujours de bonnes excuses pour se justifier. Si un jour, peut-être en 2012 ou en 2017, je ne me suis pas encore décidé, mais si un jour vous m'élisez président de la République, bon, on peut toujours rêver là, si vous m'élisez président de la République, mon premier décret consistera à transformer toutes les églises évangéliques en amicales de pécheurs. Où nous emploierons à nous encourager, à nous libérer de plus en plus du péché. Parce que l'Église existe d'abord pour libérer et transformer les pécheurs. Ben, il ne faut pas me prendre au sérieux, hein, je ne suis pas mégalo à ce point-là. Mais Paul écrit dans Éphésiens 4, par exemple, que les croyants sont là dans l'Église pour grandir ensemble et devenir adultes dans la foi en disant la vérité avec amour. Ça, c'est une vraie communauté. Ça, c'est une Église qui tourne bien lorsque dans l'Église, on peut ensemble se dire la vérité avec amour. Autrefois, dans le mouvement baptiste, en France comme ailleurs, on parlait de l'alliance du baptême. Les baptistes s'engageaient à grandir ensemble et à se dire la vérité avec amour entre baptisés. Et j'aimerais que nos églises retrouvent cette pratique. Comment ça se passe dans votre église? Est-ce que vous vous donnez la permission, les uns aux autres, de vous dire la vérité avec amour? Émilie me rappelle alors, mais je n'ai plus qu'une petite demi-page, même moi. Bâtir la communauté. Baptiser ses nouveaux disciples au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Grandir ensemble. Et puis, aller plus loin. En fait, c'est tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Depuis Abraham, que Dieu appelle constamment son peuple à aller plus loin. Les projets de Dieu mettent son peuple en mouvement. Juste quelques mots pour conclure, Émilie. Dans la conception catholique, il y a le sacré et le profane. Il y a les prêtres et le peuple, les laïcs. Il y a ceux qui ont une vocation et les autres. Mais il me semble que dans la conception biblique, tout est sacré. La maison, le bureau, les loisirs, tout est sacré. Tous sont prêtres. Il n'y a pas le pasteur et les autres. Mais tous les chrétiens sont prêtres. Tous les chrétiens ont l'accès auprès de Dieu et sont appelés à introduire d'autres. dans la présence de Dieu. Tous sont appelés. Tous sont envoyés. Car tous ont reçu une mission. Tous sont bénis et sont appelés à partager la bénédiction autour d'eux. Alors, c'est là où nous arrivons à nos trois amis. Trois hommes taillent des pierres sur un chantier, chacun avec une vision très différente. Alors, c'est là en version allemande. Est-ce qu'on a des étudiants d'allemand parmi nous? Non? Des gens qui étudient l'allemand?
Qui ont étudié l'allemand il y a très longtemps.
Moi aussi, mes enfants se moquent de moi lorsque je parle en allemand. Auf die Vision kommt Sam. Tout dépend de la vision. Tout dépend de la vision. Si vous étiez plus proche, vous verriez que ce pauvre homme, il peine, il transpire, il en a marre. Il taille une pierre pour gagner un salaire de misère à un employeur qu'il n'aime pas du tout. Le deuxième façonne une embrasure de fenêtre. C'est un artisan qui a le sens du devoir et qui a une certaine fierté de son travail. Mais le troisième, radieux, sait où il va. Il bâtit une cathédrale. Trois manières très différentes de tailler des pierres. Avons-nous compris que Jésus nous envoie, que nous sommes investis d'une mission? Vivre en disciples, faire des disciples et bâtir la communauté. Vivons-nous notre engagement comme un devoir en nous contentant de fournir un minimum? Ou servons-nous dans l'Église sans trop bien savoir où nous allons? Où avons-nous compris que notre mission est de construire l'Église de Jésus-Christ en vue de son retour et de son règne? Dieu a un projet et il nous investit tous d'une mission.